What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et au programme aujourd'hui, on prend la route, la fuite, la tangente pour disparaître ou se retrouver. Et tout cela en bonne compagnie, comme toujours, avec Cathy. Salut Cathy.
Salut Sophie.
Olivier, bonjour Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et bonjour Sylvain.
C'est bonjour.
Mais aussi le moustachu à côté de moi.
Hello tout le monde.
Salut Alexis. On va parler des films à bicyclette, Le Mohican, Black Dog, Hola Frida, La Cache. Alors on commence. On commence tout de suite. C'est parti.
On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie.
Non, j'ai trop mal, mec.
J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
Ah. On va pas s'arrêter là, allez, viens.
J'en peux plus.
C'est la première fois que je fais un truc par amitié, vraiment.
Allez, avance.
Mais ça passe pas.
Et en même temps, je ne sais pas à quoi ça sert. À quoi ça peut servir? Un ami là où t'es.
Mathias.
Adriane, ich will keine Brösel auf meinem Sofa.
Je n'aime pas les miettes à la mosquée.
Je me fous la trouille.
Sonst, Strafe.
Sinon, punition.
Et allez, hop, sur la route avec Mathias Mlekuz. C'est Mlekuz.
Mlezuk, je crois. Non, on ne sait pas trop, on lui demandera.
On lui demande. Ben oui, puisqu'il sera au Vence lundi. Donc le réalisateur et acteur principal, puisque là les Vences, là vous sortez l'artillerie lourde, il y a plein de choses. Et donc il sera au Vence en partenariat avec Le Ressort des Vivants et des Morts.
Exactement.
Et pourquoi donc?
Parce que le film, on en a entendu parler un peu partout. Il a fait la tournée des festivals, dont celui d'Angoulême, que je connais très bien parce que j'ai étudié là-bas. Et donc il a remporté le prix du festival. Donc coup de cœur du public et donc je me suis
c'est le festival du premier film du...
Non, c'est Festival francophone d'Angoulême.
Francophone, ouais.
Et donc en fait je me suis penché dessus et j'ai vu le thème du film. Donc j'ai demandé un lien de visionnage au distributeur que j'ai vu du coup ensuite et ça a été un réel coup de cœur. Alors le pourquoi. Alors déjà je vais retracer un petit peu le film. Donc Mathias Mlezuk qui entreprend donc un voyage à vélo avec son pote Philippe Rebaud sur les traces donc de son fils Yuri qui s'est suicidé au bout de son trajet en fait. Et donc Mathias Mlezuk décide de refaire le trajet avec son pote pour une espèce d'introspection, un retour sur son entre guillemets un deuil en fait, un parcours initiatique sur son deuil avec son pote pour peut-être savoir pourquoi il s'est suicidé à la fin ou ne pas avoir de réponse du tout, mais en tout cas pour que ça lui fasse du bien. Et il a décidé d'en faire un film. Comment ne pas être ému devant ce film-là? On passe du rire aux larmes. C'est un docu-fiction où on laisse place à l'interprétation, à l'improvisation, je dirais. Il y a quelques parties qui, ils le disent bien, qui sont réinterprétées, remises en scène, mais c'est une toute petite partie du film. Le reste, c'est du documentaire, hein, tout simplement. C'est tourné à la manière d'un. C'est un peu hybride, c'est entre le docu-fiction, donc on sait pas trop où se placer. En tout cas, ils emmènent le spectateur avec eux. Et nous, on est entrepris entre les émotions de la souffrance, de la douleur, hein, clairement. Mais on rigole avec eux aussi, parce qu'il y a, il y a un, En fait, il se livre à nous. Autant Mathias que Philippe. Philippe va parler de son alcoolisme également. Et en fait, tout ce chemin initiatique va nous permettre de suivre ce chemin du deuil-là, pardon. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri, beaucoup pleuré. Et moi, j'ai hâte de voir la réponse des spectateurs face à ça. Il y a eu beaucoup de retours qui sont dans le même sens. Mais rien que lundi soir, je vais aller à la séance pour ressentir les émotions parce que je pense que c'est encore plus fort. Voilà.
Lundi soir, donc lundi 17 à 20h au Vence, donc avec le réalisateur, acteur Mathias Mlizuk. J'y suis.
Ouais.
Il est également à Ruyons, à Aubenas, et il sera bientôt à Rosières. Merci. On prend la route pour d'autres raisons, même s'il est toujours question de vie et de mort, et on passe du Eastern au Western Corse.
Jean-Jacques, mon oncle.
Bonjour.
Pierre, mon cousin.
Sourire.
Ruyons, ça commence.
Ton terrain nous intéresse.
Moi, je travaille sur ce terrain.
Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage. Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent.
Mathias, t'as cuit.
Bon, arrête maintenant. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris?
Joseph, on dit pas non à ces gens-là.
Les réseaux sociaux l'ont surnommé le Mohican et suivent sa cavale, convaincu qu'il est poursuivi à tort.
T'es dit, le Mohican, oui. De Frédéric Farrucci avec Alexis Manenti. Justement, on a eu quelques films corses, alors je sais pas, peut-être un peu bêtement, je fais le rapprochement entre Le Royaume, Borgo, qu'on a pu voir aussi.
À son image, le retour de Catherine Corsini, là, il y a un peu plus longtemps. Oui, il y a une AOP. Voilà, il y a une AOC sur la Corse. Là, on est sorti à plusieurs de la séance du Mohican. J'étais entouré de gens assez dubitatifs, finalement. Et alors que moi, j'avais passé quand même plutôt un bon moment. L'explication, je la trouve dans le fait que c'est un film de genre. Mmh. C'est un film de mafia. Et donc, le genre est une sorte de contrat. Finalement, si le contrat est rempli,
et
ça
s'il
se
ne
passe
pas,
bien.
Ça,
mais ce sont des enjeux qui nous dépassent, c'est ça ? Voilà. Donc, si le contrat de genre est respecté, on peut passer un bon moment à partir du moment où on accepte de voir ça. On a un film de mafia. J'ai pas besoin de. Je sais pas, l'archétype du film de mafia, c'est évidemment, je sais pas, The Godfather, Le Parrain ou Scarface ou des choses comme ça. Donc,
et
ça
alors,
s'entretue.
Le contrat n'est pas rempli. Oui.
Et le contrat n'est pas rempli. Et c'est pour une raison toute simple, c'est que comme souvent, il y a quand même au moins ici un gentil. Qui est le grain de sable dans la mécanique mafieuse. Et c'est parce qu'il y a un gentil qu'il y a un film, en fait. Donc, effectivement, le gentil, c'est l'éleveur qui est un des derniers éleveurs en bord de mer à qui on propose de vendre son terrain afin de pouvoir y développer un complexe genre hôtelier, etc., haut de gamme, voilà. Donc effectivement, des enjeux qui, d'un point de vue financier, dépassent complètement ces 4-5 fromages de chèvre qui vend fromager du coin. Voilà. Donc nous y sommes. Je crois qu'il ne faut pas attendre plus de ce film que ça. Avec une fin... inattendue qui est... à mon avis, qui a été, pour le réalisateur, le seul moyen de finir de manière pas trop convenue, à la fois ouverte à l'interprétation, et à la fois ouverte à l'interprétation. J'ai juste une petite remarque avant de finir complètement, la question de ce qui attire dans les films de mafia, j'ai une fascination pour ce milieu qui me paraît toujours suspect, il n'y a rien à faire. Mais tant pis. Quand même, je remarque un acteur, Paul Garat, dans le rôle de Pierre dans le film, que j'ai déjà vu dans À son image, je crois, et dans Le Retour de Catherine Corsini, et qui est un acteur dont on trouve très peu d'images sur le net, et qui est excellent, qui est vraiment très très convaincant.
Mmh. Merci le Mohican.
Oui, il y a de nombreux films corses cette année. Hein. Tu as cité à son image, ouais. Thierry de Peretti. Mmh. Il y avait Borgo, il y a Le Royaume. Mmh. Donc ouais, il y a une tendance film corse.
Je me demande s'il n'y a pas un effet mafieux. Enfin, c'est-à-dire que les producteurs trouveraient de l'argent en présentant la Corse de manière comme ça accessible.
Mmh.
Ça se demandait. Parce que la mafia corse dans le royaume, elle est quand même dépeinte avec des couleurs presque familiales. Mmh. C'est sympathique, c'est une petite entreprise, quoi, finalement.
Mais c'est la famille. Oui,
c'est la famille. C'est ça, c'est la voilà. Famille.
Mais je me pose aussi.
Sans sous-estimer la violence que ça implique derrière, quand même.
Certes, mais.
Et les dommages collatéraux.
C'est ça. Mais il y a un degré d'acceptation qui me paraît moins étrange quand même. Mmh,
mmh. Mais je me pose la même question sur cette fascination pour les films de mafia. Bah, ça me questionne.
Oui, mais c'est très cinématographique aussi. Enfin, dans ce qu'on a envie de raconter, il y a de l'action, il y a
du narratif.
Bah oui, il y a tous les bons ingrédients pour faire un film de cinéma.
Enfin, au-delà de ça, quand même, il y a quelque chose à réfléchir, je crois.
Bah, vous pourrez réfléchir sur votre siège de cinéma à Aubenas et la semaine prochaine au Taï pour voir le Mohican. Allez, on passe d'un western du Far East à un western de Chine, peut-être crépusculaire, lunaire, je ne sais pas. Oui, c'était juste un tout petit extrait, voilà, comme ça il papote pendant ce temps-là. Mais j'ai quand même choisi, donc évidemment c'est en mandarin, j'imagine, en tout cas c'est un film chinois. Mais la musique m'a fait vraiment penser à la musique d'un western, donc c'est pour ça que j'ai sorti ces quelques secondes. Donc, Cathy, tu es allée voir Black Dog de Hu Guan avec Eddie Peng.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est c'est bien, c'est à moi. Alors, Black Dog, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un film que j'ai découvert il y a longtemps, en fait, parce qu'il était un certain regard l'année dernière et j'avais eu la chance de le voir pour les rencontres à RSC de Cannes. Donc, c'était une proposition qu'on nous avait faite, qu'on n'a pas retenue sur le moment par rapport à notre cahier des charges. Mais vraiment, c'est un film qui est très impressionnant visuellement. Tu as senti le côté un peu western. On ne sait pas trop en fait où on arrive avec ce film et ce qu'on va découvrir. Et c'est une vraiment très très belle surprise. Et c'est un de mes coups de cœur de cette année en tout cas, puisque le film est sorti il y a peu. Alors, qu'est-ce que raconte Black Dog ? Il y a effectivement ce personnage là, Lang, qui revient dans sa ville natale. C'était plutôt quelqu'un de, enfin plutôt version rockstar, enfin très très connu à l'époque, et il revient. Il sort de prison. On comprend qu'il sort de prison et cette ville natale, elle se tient aux portes du désert de Gobi. Et alors qu'il va travailler pour la patrouille locale qui est chargée de débarrasser la ville des chiens errants, donc il y a une scène incroyable, la première séquence du film, on a ce désert, on a un bus qui arrive dans le plan, et là, des chiens errants qui débarquent, mais des milliers quoi, un truc de fou. Comme ça, on a ce plan-là, et dès cette première scène, en fait, on est happé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, le bus se renverse, accident, et là, les personnages voilà, commencent à sortir, dont ce Eddie, qui est, enfin, Lang, Eddie Pénal, un acteur hyper charismatique et très mystérieux dans le film, parce qu'il ne parle pas, on ne sait pas trop qui est ce personnage. On l'entend parler uniquement avec sa sœur au téléphone qui arrive à lui à le faire un petit peu parler, mais c'est vrai qu'il a fait un peu comme s'il avait décidé de ne plus parler au monde et aux humains. Et donc, effectivement, un peu, je ne vais pas dire facilement, mais il va y avoir des primes pour ceux qui veulent bien s'engager auprès de la patrouille locale pour récupérer ces chiens errants. Et il y a une mise à prix sur un chien black, noir, particulière. Et c'est finalement, dans la tête de Lang, c'est est-ce que je suis ce qu'on me demande de faire, finalement. C'est-à-dire, je rentre dans une espèce de moule et je vais faire comme les autres, contribuer à récupérer ces chiens errants et finalement à aller dans le sens que le gouvernement ou les autorités veulent me faire aller, ou est-ce que j'ai envie d'autre chose, en fait ? C'est ça. Et en fond, il y a le fait que on est à la fois dans une certaine... c'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'impression d'être dans un paysage post-apocalyptique.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et finalement, on comprend qu'on est aux portes des Jeux Olympiques de Pékin, ouais, de 2008, avec aussi tout ce que ça peut impliquer derrière, de la part du gouvernement, de faire table rase et rendre propé un petit peu tous les espaces, en fait. Et petit à petit, on rentre dans l'histoire du personnage, dans cette histoire, dans l'histoire, et ça, c'est un film fascinant, mais vraiment fascinant. De la première scène où on est happé par ces chiens qui débarquent là de nulle part, jusqu'à la dernière. Vraiment, c'est un film incroyable qu'il faut découvrir en plus au cinéma, parce que là, forcément, on est dans un de l'ambiance, de par les paysages, la mise en scène, c'est vraiment fascinant.
C'est sûr qu'en regardant simplement les quelques images à la bande-annonce, moi j'étais assez stupéfaite. Visuellement, graphiquement, esthétiquement.
Esthétiquement, voilà, c'est ça. Et donc le réalisateur là, Yu Yang, ou enfin Guan Yu, on dit comme on veut. Enfin, toi, tu connais mieux Olivier le chinois.
Ah oui, non, mais pas. Non, je peux pas le prononcer.
Là, on est dans un cinéma d'auteur, alors que c'est un réalisateur qui vient vraiment du blockbuster en Chine, qui a fait la brigade, je crois, des 800, qui est un énorme blockbuster en Chine en 2020. Il vient vraiment de les grosses machines, quoi. Donc, on sent qu'il maîtrise l'image clairement, mais là, on est vraiment dans du cinéma d'auteur. Et il a mis tout son savoir-faire pour le film, et ça donne vraiment quelque chose d'incroyable. Et à noter aussi que dans un des personnages, Butcher Yu, qui est le boss un peu de la ville et qui le titille parce que bon, il accuse d'avoir tué son neveu, et c'est pour ça que Lang a fait de la prison, c'est pour la mort de ce neveu. C'est Jason Kay, donc un grand réalisateur qui nous avait fait Still Life, Touch of Sin, Au-delà des montagnes, enfin voilà, bon bref, c'est pour le clin d'œil, mais enfin en tout cas c'est un film incroyable.
Un film à voir. Pour l'instant, il est à Priva et il sera dimanche 23, il sera au Vence dans le cadre du festival d'Amnesty International au cinéma pour les droits humains, et ce sera une séance en présence de Marie Holzmann, qui est sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine.
Oui, et puis là, on est sur les laissés pour compte. Enfin, voilà, exactement, la population. Et il y a plein de similitudes, je pense, aussi avec Mad Max.
On a un côté très Mad Max. C'est ce que j'allais te dire. Un peu crépusculaire. On ne sait pas très bien où on est, dans un désert. Super. Black Dog. Allez, on passe à d'autres couleurs maintenant. Et même le son est très différent.
Oh là, Frida, des murs se dressent devant toi. Oh là, Frida, tu t'en vas au-delà. Yo soy Frida, rechace la llorona. Yo soy Frida, coraje y resiliencia.
Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs.
Viens découvrir mon monde.
Et oui, Hola Frida de André Caddy avec Olivia Ruiz qu'on a entendu un peu. Alors, Hola Frida, Hola Olivier.
Oui, j'ai été voir ce film dans le cadre donc de ma promotion du cinéma jeune public. Et là, effectivement, j'ai bien fait parce qu'on est effectivement devant un film qui n'est pas du tout dans les formats habituels du cinéma jeune public.
Même la bande-annonce.
Tout.
26 secondes. Merci.
Oui, très bien. Je ne savais pas. C'est une bonne nouvelle de plus. Non, c'est un film qui, effectivement, est original par son graphisme, d'une part. Un graphisme très simple, avec des grandes formes, des visages très dessinés de manière très, très simple. Et des couleurs primaires très vives qui remplissent donc ces formes très grandes. Donc on a un film qui est déjà un choc visuel dans un premier temps, avec la musique qui va avec. C'est évidemment un biopic animé sur Frida Kahlo, donc la peintre mexicaine. Le film s'ouvre sur Frida Kahlo adulte, qui se présente comme la narratrice du film, et elle raconte les premières années, c'est-à-dire l'enfance et la prime adolescence de Frida Kahlo, dont on sait que la vie lui a pas fait beaucoup de cadeaux, étant donné que ça commence par la poliomyélite à 6 ans et que ça se poursuit à l'adolescence quand elle rentre de cours par un accident de bus qui la laisse quasiment morte et en tout cas handicapée et douloureuse jusqu'à la fin de ses jours. Donc ce film présente ça. J'ai discuté, comme je fais souvent avec des enfants sortant de la séance, je leur ai demandé si ça leur avait plu, et ils m'ont dit « oui, mais c'est quand même un petit peu triste hein ». Alors j'ai répondu « bah oui, mais enfin, elle s'en est sortie avec la peinture ». Alors la petite fille m'a regardé comme ça, en disant « bon, le monsieur, il a raison, elle s'en est quand même sortie ». Donc c'est un peu ce que ça raconte, ce film, c'est-à-dire que sa vie à Frida Kahlo, ça commence, enfin, tout est fait pour que ça soit une véritable catastrophe qui, d'ailleurs, ne va peut-être même pas se poursuivre, parce que bon, il est question quand même de préférer mourir plutôt que de vivre ça. Et puis, en fait, entre autres la peinture, mais je crois aussi l'amour, l'amour des hommes, mais l'amour aussi des femmes et de son pays, et de la nature, et des plantes, enfin, tout ça a rendu possible sa vie. 140 et quelques tableaux, dont plus de 50 autoportraits. Ce qui fait l'intérêt, à mon avis, peut-être principal du film, c'est que, justement, on voit bien l'articulation entre l'univers visuel réel de Frida Kahlo, c'est-à-dire que de quoi il est constitué ? Ben, il est constitué des éléments culturels hauts en couleur du Mexique, mais aussi des peuples indigènes du Mexique, de leur mythologie. Donc elle est environnée, elle va au marché, ils font les courses pour la cuisine. La cuisine est très importante dans le film et on voit des plats qui eux aussi sont hauts en couleur. Donc la maman de Frida Kahlo l'initie au mythe de l'ethnie dont ils sont originaires, dont elle voit les productions esthétiques. Donc elle est dans cet univers-là. Et en même temps, à cause de son malheur en particulier, parce qu'au départ, elle veut être médecin, hein, elle veut pas être peintre, hein. À cause de son malheur, on voit la pulsion créatrice qui apparaît en elle et on voit son monde visuel personnel émerger, articulé à ce monde visuel réel. Et ce qui fait, encore une fois, qu'on voit bien l'articulation, c'est cette initiation qu'elle a à la nature et aux indigènes dont elle est issue, d'un côté, et aussi au fait que son père est photographe, mais un photographe assez créatif, et il comprend que pour que sa fille trouve des raisons d'exister, une des solutions, ça peut être de lui donner les photos noir et blanc à colorier. Et donc elle colorie les photos noir et blanc de son père. Et là, on voit encore une fois comment l'univers imaginaire visuel de Frida Kahlo s'articule sur sa vie réelle et lui permet de vivre à travers l'image. J'aurais juste un bémol, c'est que le film est parfois un peu lourdement didactique. Voilà, oui. Engagé pour le respect de la différence, l'acceptation de soi, etc. Ça frise parfois un petit peu le cours de morale. Hein. Le film est en particulier inspiré du livre illustré Frida, c'est moi, de Sophie Fauché et Cara Carmina, qui est un livre illustré lui-même présenté sur un site internet www.olafrida-film.com où on a carrément des ressources pédagogiques dans le sens de l'acceptation de soi et de l'acceptation de la différence. Donc c'est très bien. Je suis pas certain que un film doive servir prioritairement un message, surtout que le film véhicule
en soi
déjà un message, à savoir que la création artistique est une réponse au malheur.
Hola Frida, qui est en ce moment sur les écrans à Aubenas et qui sera aussi bientôt à Barjac, au cinéma Le Regain. Et pour terminer, un film qui ne sort que la semaine prochaine, mais que vous avez passé au Vence hier soir, en avant-première dans le cadre d'un nouveau rendez-vous, un livre, un film. Il s'agit de La Cache.
Il y a eu des coups de feu, non?
C'est les Boches.
Ça t'embête pas de rester rue de Grenelle encore un peu? On est en train de changer d'avenir, c'est compliqué, je t'expliquerai.
Ok.
Tiens, ça fortifie les cheveux.
Voilà. Prise d'assaut par les CRS.
Depuis quand
on se soucie
des SS?
Tu parles des CRS, hein, pas des SS.
J'aimerais simplement que quelqu'un me dise c'est beau, avec sincérité.
Mais c'est beau.
Quelqu'un du dehors.
Tu veux fumer?
Non,
je peux pas fumer. Ah, c'est chic.
C'est ça que je veux.
Ben voilà, c'est ça qu'il veut, le petit Christophe. Donc, La Cache de Lionel Bayer avec Dominique Raymond. On a entendu aussi Michel Blanc. William Lebgill. C'est une interprétation du livre justement de Christophe Boltanski qui avait eu le prix féminin en 2015 pour La Cache justement. Et là, donc réalisé par Lionel Bayer. Tu nous en dis un mot, Alexis ?
Oui, je peux vous dire un petit mot sur ce film qu'on a diffusé hier en avant-première. Alors, on l'a vu tous ensemble hier soir avec donc, les acteurs littéraires du territoire des Vences. Et on est ressorti avec plein d'avis différents. Parce que, en fait, déjà, le livre est très, très fourni. Et en fait, le film, forcément, c'est une adaptation libre. Donc, il a fait des choix qui se discutent. Et par exemple, le réalisateur s'est arrêté sur l'événement de mai 68. Alors que, en fait, dans le livre, on retrace la famille, on suit la famille, sa famille à lui, sur tout un siècle. Et là, on s'arrête sur ces faits-là. Alors, il explique bien que c'est vraiment un choix de sa part, parce qu'il pense que mai 68, dans le film, ça permet de, entre guillemets, d'accentuer cette cache qui est alors représentée sous différentes formes. On va avoir la voiture, on va avoir l'appartement parisien de la famille, on va avoir des petites histoires qui s'accumulent. Je vais pas trop en dire parce que sinon je vais pas spoiler.
Ouais.
Voilà. Mais en fait, on suit cette famille dans ce film-là avec beaucoup de particularités. C'est aussi on en a parlé, c'est un peu cette naissance des bobos. Et on le sent de toute façon qu'ils sont hors code, mais ça parle de plein de choses différentes. Alors, pour vous donner des détails, juste, on peut voir les décisions qui ont été prises à l'époque, à la guerre, justement, quand on est juif, par exemple.
Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Ouais, oui, c'est quand même
beaucoup de choses. Le film, c'est de la Seconde Guerre mondiale à 68.
Exactement, c'est ça. Alors, il n'y a jamais de retour en arrière. Il y en a très peu dans le film. On en parle juste. Et en fait, il explique, par exemple, que lui, il a décidé de changer de religion, en fait, de passer au catholicisme, justement parce que c'était mal vu en Seconde Guerre mondiale. Et malgré ça, il s'est quand même caché sous le plancher pendant la guerre, parce que justement il était juif. Et donc en fait on le dans le film il y a toujours cette arrière de la Shoah qui persiste, tout simplement parce que on sent que les consciences sont encore paralysées, sont encore choquées de la chose. On sent il y a une perquisition à un moment dans l'appartement et on voit un fils qui s'emporte en disant mais regardez, c'est comme ça qu'on fouille, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Voilà, il y a vraiment ce fantôme là qui est présent tout le temps, tout le long du film. Et et dans tout ça, il y a des fulgurances de comédie avec Michel Blanc, forcément, qui est là, qui est sur son dernier film en plus, parce qu'il est décédé quelques mois après. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser un petit peu à la scène de fin, sans le vouloir. On a le petit garçon et lui qui marche sur une route qui voudrait presque dire au revoir, en fait. Donc c'était hyper poétique. Et donc, quand je dis que les avis divergent, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans le film, mais on va pas dans la profondeur des personnages. Alors que le livre, justement, on va aller s'arrêter au grand-père, on va s'arrêter à la grand-mère, comment ils se sont rencontrés, enfin, ils ont tous des particularités qui sont montrées, mais qui sont pas fouillées, voilà. Et c'est un peu gênant dans le film. Et c'est ce qui peut manquer un petit peu. Il y a beaucoup aussi de plans stylisés qui n'apportent pas forcément au film. Enfin, ça, c'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup de spectateurs aussi ont pensé. C'est presque un film qui a beaucoup de mini-scénettes, mais qui n'a pas de cohérence scénaristique. On y va parce que Michel Blanc, et je pense que la promotion va être faite beaucoup là-dessus. Je ne dirais pas que c'est un mauvais film, je ne dirais pas que c'est un très bon film, je dirais qu'il faut aller le voir pour Michel Blanc.
Voilà, c'est dit. Oui.
Oui, moi, je voulais signaler par rapport à ce film qu'en fait, nous avons les derniers survivants de la Shoah qui s'en vont progressivement et que la Shoah est en train de devenir un thème de psychogénéalogie. C'est-à-dire, on essaye de comprendre ce que ça fait sur les gens qui ont aujourd'hui mon âge ou un peu moins. Le fait de venir de familles qui ont subi donc la destruction des Juifs d'Europe. Et je pense qu'en même temps, que y a cette actualité-là, sur la disparition des derniers témoins, on a une autre actualité en parallèle, c'est que des régimes très autoritaires fleurissent un peu partout sur la planète, et que chacun d'entre nous, aujourd'hui, doit se faire, entre guillemets, une religion, chacun d'entre nous, aujourd'hui, doit se faire une religion par rapport à ces régimes ultra-autoritaires, un petit peu comme à l'époque de la destruction des Juifs d'Europe, chacun dans son coin, en particulier en France, devait faire des choix. C'est la raison pour laquelle Sartre disait « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation ». C'est parce que sous l'occupation, il fallait faire des choix. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie actualité psychosociale pour ces films. C'est pas par hasard qu'on a « La vue devant moi » et d'autres films qui
fleurissent. Ouais. Merci. Donc, Lacache, je ne sais pas où ni quand sera programmé, mais en tout cas, il sort la semaine prochaine. Merci, Alexis. Tu voulais dire un dernier mot?
J'ai deux minutes pour parler du printemps du documentaire, parce que c'est un événement un peu historique, entre guillemets, que l'on organise à la Maison de l'Image en partenariat avec l'association territoriale Les Écrans de Rome Ardèche. Donc il y a la possibilité de programmer des films documentaires, et là nous en avons quatre qui sont prévus. J'ai le temps de les citer. Il y a Black Box Diaries, qui est un film où une journaliste au Japon revient sur son agression sexuelle et comment elle va mettre son bourreau face à ses responsabilités et la société japonaise aussi. Les fils qui se touchent, avec Nicolas Burlot qui sera présent, le réalisateur, où là on parle plutôt de dysfonctionnement, de mémoire collective et de souvenirs. Ce n'est qu'un au revoir, en présence aussi du réalisateur Guillaume Braque, où là on revient sur les années lycée. Et puis le superbe documentaire de Raoul Peck sur Ernest Cole, photographe d'Afrique du Sud, qui est vraiment à découvrir. Voilà.
Tu rappelles les dates?
Alors les dates, ce sera entre le 26 mars et le 10 avril. Donc il y a une date évidemment fixée pour chaque, mais on en reparlera.
Sûrement. J'espère. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, Cathy, Olivier. et Alexis d'être venu jusqu'ici. Et merci Sylvain pour l'organisation de cette émission. Bon cinéma à tout le monde. Ciao.
Ciao, ciao.